5.
Attendez-vous à plus. Drainville PM. Les chefs.
On reconnaît qu'il y a différentes perspectives à travers le pays, mais nous avons fait les études et les décisions par rapport à la cultivation à domicile. Je reconnais qu'à tous les trois ans, dans trois ans, on pourra réviser pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. On a entendu les sénateurs là-dessus.
Le zéro plan au Québec va se prévaloir. Moi, je me serais attendu à ce qu'il y ait une écoute du Sénat et d'un gouvernement qui a un champ de compétences.
C'est pas un aveu de faiblesse du gouvernement du Québec, au fond, par rapport au fédéral?
Il y a zéro faiblesse, monsieur, parce qu'au gouvernement du Québec, on a décidé que ce serait zéro plan. C'est zéro plan qui va s'appliquer.
Les chefs Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Bon, mais il y a une petite pomme de discorde. Je sais pas si on pourrait...
Une cocotte de discorde.
J'allais dire. entre Québec et Ottawa, vous avez entendu le premier ministre Trudeau, donc, qui tient son bout sur les fameux plans à la maison. Puis la ministre Lucie Charlebois qui dit, ben, il n'est pas question, là, ça ne sera pas permis là, de cultiver son propre plan de potes ou ses propres plans de potes à la maison. Et pour en parler, ben, il y a Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine d'actualité. Bonjour, Alec.
Bonjour.
Et Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour.
Bonjour, Antoine. Les batraciens.
Aha! Alors, je veux juste dire, avant qu'on plonge dans le champ de potes, je veux juste donner quelques petites informations, une petite mise à jour là, sur la panne de courant.
Est-ce qu'il fait noir dans votre studio?
Non, là, on a retrouvé l'électricité.
On n'a toujours pas l'air climatisé.
Non.
On se refroidit à la bonne vieille fan à hélice.
Et voilà.
Tu veux dire un ventilateur, sans doute.
Un ventilateur, oui,
merci,
c'est cela.
Merci à toi.
Alors, je veux juste dire que, selon Urgence Santé, là, il y a deux hommes âgés entre 20 et 30 ans qui auraient été blessés, en fait, qui ont été blessés ce matin suite à l'explosion d'un disjoncteur à Montréal. Donc, blessé suite à l'explosion d'un disjoncteur. On ne sait pas encore si c'est des travailleurs ou des passants. Ça s'est produit au coin de Sainte-Catherine et Bleury. Donc, ce matin, vers 11h15, il y a un des deux hommes qui serait blessé plus gravement. On parle de blessure, on parle de brûlure, en fait, qui aurait nécessité son transport à l'hôpital. Donc, on essaie de savoir est-ce que c'était des gens qui travaillaient pour Hydro ou c'était des gens qui passaient par là et qui, malheureusement, donc, auraient été touchés par l'explosion de ce disjoncteur. On m'informe aussi qu'il y a encore des abonnés d'Hydro-Québec qui n'ont toujours pas d'électricité. Je referme la parenthèse. Je retourne aux potes avec Alec. Justin Trudeau qui ne veut pas entendre parler des amendements proposés par les sénateurs.
Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, parce que le gouvernement a dévoilé sa réponse donc aux amendements proposés par le Sénat sur la légalisation du cannabis. Il y avait 41 amendements et le gouvernement Trudeau en accepte 28 sur 41, donc accepte la majorité des amendements. Il y avait beaucoup d'amendements là, qui étaient quand même assez techniques dans la liste de 41. Il en rejette donc 13. Mais ce qui est intéressant, c'est lesquels ils acceptent et lesquels ils rejettent. Et on va arriver dans un moment à la cocotte de discorde entre Ottawa et Québec. Mais avant, je voulais juste te faire un petit récapitulatif. Par exemple, le gouvernement fédéral refuse l'amendement qui avait été présenté par le sénateur Claude Carignan pour créer un registre public des investisseurs et des administrateurs de l'industrie du cannabis.
Ben oui.
Qui visait à savoir s'il y avait des gens qui étaient impliqués dans le crime organisé, qui étaient des investisseurs dans ce domaine-là.
Ou des gens, issus des paradis fiscaux.
C'est ça, exactement. Hein? Donc, on refuse cet amendement-là proposé par le Sénat, mais on accepte un autre amendement proposé par le Sénat qui vise à donner un pouvoir discrétionnaire au ministre pour suspendre une licence d'exploitation si ça profite au crime organisé ou s'il y a des procédures qui sont illicites. Donc, on n'aura pas de registre public, mais le ministre, s'il y a une enquête puis on montre qu'effectivement, il y a des investisseurs qui font de l'argent puis qui sont reliés au crime organisé, va pouvoir suspendre la licence d'application de manière discrétionnaire. Donc, c'est une espèce de compromis. On a refusé un autre amendement qui visait à interdire l'usage d'images de marques sur des articles promotionnels utilisés, par exemple, du cannabis sur des T-shirts ou des casquettes et pour les entreprises. Le gouvernement juge que ça va être difficilement applicable et on laisse aux provinces gérer cette question-là. Donc, on refuse cet amendement-là du Sénat. Le gouvernement Trudeau repousse aussi deux amendements qui, ma foi, étaient un petit peu particuliers. Les sénateurs conservateurs avaient proposé que des parents qui consomment du cannabis à la maison puissent en fournir à leur enfant s'il était âgé de plus de 16 ans et que ce soit légal. parce qu'on sait que la limite, ça va être 18 ans la plus, dans, ou 21 ans, dépendamment de la province. Mais là, si vous aviez du cannabis à la maison, donc légalement, parce que vous êtes des parents, vous auriez pu en donner à votre enfant, même s'il a entre 16 et 18 ans.
C'est les conservateurs qui proposent ça?
Oui, c'est un amendement déposé par les conservateurs.
Il semble que c'est un peu curieux. Puis deuxièmement, habituellement, ils sont plutôt dans
Oui, mais là, je ne sais pas trop. C'était pour peut-être faciliter ou du moins pas engorger les tribunaux. Je ne sais pas. Bref, le gouvernement Trudeau dit que ça ne protège pas suffisamment les enfants. On refuse cet amendement-là. Et dans la même veine, on avait aussi proposé du côté des conservateurs qu'un ami majeur puisse partager du cannabis avec un ami mineur s'il n'y a pas plus que 2 ans de différence.
Ça aussi, ça venait des conservateurs?
Ça aussi, ça venait des conservateurs. Et ça a été refusé aussi par le gouvernement, disant que c'est quelque chose qui est particulier.
Habituellement, c'est ça que j'essayais de dire, ils versent plutôt dans la restriction. Et on a l'impression que ces propositions-là visent à favoriser ou à tout le moins à libéraliser la consommation.
Il y avait une question, là, je pense, peut-être d'application, pas criminaliser davantage certains comportements. Je ne sais pas. Je t'avoue que, bref, on les a refusés.
Okay.
Mais le gros amendement que tout le monde attendait de voir, c'est celui dont Justin Trudeau parlait et qu'on a entendu tout à l'heure. Et Lucie Charlebois, c'est-à-dire que les sénateurs, pas mal tous les sénateurs d'ailleurs, voulaient que ce soit à la discrétion des provinces cette possibilité-là d'interdire la culture à domicile de marijuana. Actuellement, le fédéral va permettre jusqu'à 4 plants. Le Manitoba et le Québec disent, ben nous, on veut que ce soit 0. Le fédéral dit, ben il faudrait au moins qu'il y ait une certaine permissivité parce qu'on veut combattre le crime organisé. On devrait pouvoir en laisser pousser une certaine quantité à la maison. Et ça, Justin Trudeau est inflexible là-dessus. Donc, on a rejeté la proposition d'amendement du Sénat. Vous avez entendu l'extrait tout à l'heure, mais il y a Ginette Petitpas-Taylor, qui est la ministre de la Santé, qui a dit, écoutez, les provinces, c'est pas vrai qu'ils n'ont aucune latitude. D'abord, ils peuvent décider que ce sera seulement 1 plant. Vous allez l'entendre dans l'extrait qui suit.
Ah oui?
Ça pourrait être 1. Elle dit, nous, on le permet jusqu'à 4. Bien, on veut pas qu'il y ait de restrictions totales, mais entre les deux, elle semble dire que les provinces vont pouvoir avoir leur mot à dire. Puis elle dit, les propriétaires vont pouvoir aussi interdire à leurs locataires d'en faire pousser. Et les syndicats de copropriété vont aussi pouvoir se prononcer là-dessus. Donc, c'est pas vrai que c'est une permission tous azimuts. Donc, je vais faire entendre Ginette Petitpas-Taylor ce matin.
Il y a plusieurs compromis aux différentes limites que les provinces et les territoires peuvent mettre sur pied. Comme je dis, la question de cultivation à domicile, nous disons que c'est un maximum de 4 plantes. Mais si les provinces et les territoires choisissent de minimiser la somme à 1 plante, c'est complètement leur choix. Aussi, s'il y a des propriétaires d'édifices qui ne veulent pas permettre la cultivation, ce sont des choses, des limites qu'ils peuvent imposer.
Mmh. Ouais, donc elle semble dire que l'interdiction complète n'est pas la voie du fédéral, mais que les provinces vont avoir une certaine marge de manœuvre. Ça fait pas l'affaire de Québec qui aurait voulu pouvoir l'interdire au complet. D'ailleurs, c'est ce qu'il va essayer. Hein?
Mais d'ailleurs, Antoine, le projet de loi qui a été voté hier donne aux propriétaires de logements le pouvoir, n'est-ce pas, de réglementer, même d'interdire dans leur logement la consommation de cannabis, exact?
Oui, mais t'as pas le droit de cultiver à la maison, là.
Non,
ça demeure.
D'accord. Non, ça demeure partout au Québec.
Mais c'est la grosse pomme de discorde entre les deux, là. Puis Jean-Marc Fournier nous a fait tout un spectacle tout à l'heure.
Ah oui?
Il est vraiment en colère. Ah oui. Il est vraiment en colère. Il a dit que le fédéral manquait de respect. On peut l'écouter d'ailleurs. On a un extrait de sa conférence de presse parce qu'il a fait une longue conférence de presse après. Et là, je veux juste dire, avant qu'on lance l'extrait, en chambre, il a dit « Nous allons respecter notre loi, évidemment, et allons dire au fédéral que la prochaine fois, on se souviendra du manque de respect qu'ils ont. » C'est quelque chose. Puis là,
ça veut dire quoi, ça?
On se souviendra du manque de respect qu'ils ont. On a essayé de savoir ce que ça voulait dire,
ben,
Bernard,
oui.
Dans le tu connais le salon Bernard Lalonde.
Bien sûr.
Surnommé le Hot Room.
Bien sûr.
Et
j'y ai passé beaucoup de temps.
Ah oui, on a discuté, toi et moi, là. Et on a vraiment bombardé de questions, M. Fournier, pour savoir, par exemple, on se souviendra du manque de respect. Est-ce que ça veut dire que les électeurs de Chicoutimi doivent se souvenir du manque de respect des libéraux?
Les partiels de lundi.
Ah, Colin, ça a été difficile. Là, tu sais, quand Jean-Marc veut pas, là.
Ah, boboy.
Aïe, qu'il voulait pas. On peut écouter.
Je crois personnellement que lorsque nous n'avons pas à l'Assemblée nationale un respect réciproque par rapport à l'exercice de nos compétences que celui qu'on donne à l'exercice de leurs compétences, je crois qu'il faut s'en souvenir.
Là, vous êtes en train de mener en ce moment même une politique d'affirmation nationale. Vous êtes en train de dire que Québec devrait prendre sa place dans la fédération.
Oui.
Puis on a des messages, on dirait qu'il y a tout le temps un choc, il y a tout le temps une chicane, il y a tout le temps des étincelles. On vous sent plus désillusionné maintenant.
Pas du tout. Ben non, ça c'est le truc de dire, dès qu'il y a un conflit, toutes nos convictions tombent à l'eau. Dès qu'il y a un problème, toutes nos espérances tombaient l'eau.
Il n'y a pas juste un, là.
Il y en a plein qui sont réglés aussi, là. Prenons, dans la mesure, là, soyons justes, là. Ce n'est pas toujours une question de « Ah, là-dessus, on ne s'entend pas, alors on brise le pays ». On s'affirme et on va continuer de s'affirmer, puis on le fait avec confiance, puis on a des bonnes raisons de le faire.
Oui, OK.
Mais là, c'est parce que c'est pas ça. Tout à fait l'extrait que je voulais, mais tu sais, c'est ça l'affaire, là. C'est que, il ne veut pas dire que les électeurs devraient s'en souvenir, mais je pense qu'ils devraient se souvenir aussi d'une autre affaire,
hein?
De la lettre de Justin Trudeau du 22 août 2015. À Philippe Couillard.
Ah, oui.
C'était une lettre où il répondait à Couillard qui avait dit « Nous, on a des attentes pendant la campagne électorale fédérale. »
Ouais,
il
ouais,
avait envoyé
ouais,
ça
ouais,
à ouais, tous ouais, les partis.
Ouais, ouais, ouais,
et sur le fédéralisme, M. Couillard avait certaines attentes. Ah. Puis M. Trudeau, voilà ce qu'il a répondu. Et là, j'ouvre les guillemets. Mm-hmm. « Il nous faut constamment revenir à l'esprit fédéral. Cette idée que nous devons travailler ensemble dans le respect des différences pour atteindre nos objectifs communs. »
Oui.
Les défis auxquels nous faisons face, mettons le pote, ne peuvent être résolus uniquement à partir d'Ottawa.
Garde ton. Oui,
mais j'essaie.
C'est qui parle, là?
Je suis en train de faire évoluer mon.
Non, mais c'est Couillard qui parle ou c'est Trudeau?
Ben non, c'est Trudeau!
Ben là, prends ton accent comme il faut, t'es capable.
OK, je vais essayer Trudeau.
Oui.
Ils exigent un vrai partenariat.
Ça, c'est son père.
Ça, c'est le père. Merde, c'est pas capable!
C'est carré. Non, t'es pas loin. Continue.
Entre le gouvernement fédéral et les provinces, et une vision fédérale qui respecte les compétences du Québec et de toutes les provinces. Cela nécessite un dialogue continu.
Oui.
Il n'y a plus de dialogue. Hein? Sur le pote, il n'y a pas pantoute. Il n'y a pas de l'esprit fédéral là-dedans. C'est ce que Jean-Marc Fournier a dit.
Oui.
Mais il n'était pas capable de nous dire si ce souvenir du manque de respect, ça voulait dire voter contre les libéraux à Chicoutimi.
Lundi.
Mais oui.
Lundi, ça vote.
C'est
bon,
lundi.
C'est-tu du sparage préélectoral, ça, de notre Jean-Marc, qui est bien capable?
Ben oui. Hein? Ou c'est l'ancien conseiller du PLC aussi. Souvenons-nous, pendant sa retraite temporaire de la politique québécoise, il est allé folâtrer à Ottawa.
Avec Paul Martin.
Non, Michael Ignatieff.
Oui, c'est vrai. Mais Michael Ignatieff.
Oui.
Exactement.
Bon.
Après ça, il est allé à SNC.
Bon,
Lavalin.
Petite correction, parce que tu m'as soulevé un doute en me disant, est-ce que c'est vraiment les conservateurs qui avaient proposé l'amendement sur l'écart entre les jeunes et les parents? Et tu as raison, ma longue liste de 41 amendements, j'en ai inversé deux. Alors, c'est une sénatrice indépendante de la Nouvelle-Écosse, Wanda Bernard, qui avait proposé que les parents puissent partager avec leur enfant de 16 ans ou plus, ou qu'un ami puisse partager avec un mineur de 2 ans de différence. C'est donc une sénatrice indépendante et non pas conservatrice. Tu as bien fait de me remettre en question, parce que c'est vrai que ça sonnait
un peu étrange. J'ai semé le doute dans ton esprit.
Mais les conservateurs ont déposé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amendements. Alors, dans ma petite liste, là, à un moment donné, j'ai dû inverser deux trucs.
Mais je n'ai semé que le doute dans ton esprit.
Je veux juste ajouter quelque chose sur Fournier, les amis. Il a dit aussi qu'il était insulté par le fait que c'est Justin Trudeau, à un moment donné, qui a dit à l'égard d'une motion unanime de l'Assemblée nationale que c'était pas la première fois que l'Assemblée nationale était unanime. Et j'ai senti vraiment le fédéraliste québécois frustré à l'égard d'un Trudeau à Ottawa. C'est pas la première fois dans l'histoire, là.
Tu as senti ça de la part de Jean-Marc Fournier?
Vraiment. Il a fait une petite liste, mais c'est ça, il est pas allé jusqu'à dire que il fallait les battre dans Chicoutimi.
OK. Mais le fait que vous posiez la question, puis le fait qu'ils ne répondent pas vraiment, ça laisse entendre que il est pas, mettons que, tu sais, s'il avait voulu tuer le canard avant que le canard lève, il aurait dit non, je suis pas là-dedans, là, je suis coutumé le fjord, c'est autre chose.
T'sais,
mais il a pas tué le canard. Il est resté évasif.
Mais ils sont tannés d'Ottawa qui dit, ils prennent des motions unanimes, on s'en sac. T'sais, c'est pas correct.
Bon.
Puis après ça, évidemment que, tu sais, quand, sur un produit qui est décriminalisé, comme l'alcool, il y a des âges différents là partout dans les provinces. C'est pour ça que les Ontariens viennent prendre leur première brosse au Québec. Donc ça arrive, tu sais, je veux dire. C'est ça le fédéralisme aussi, qu'on prend des décisions différentes de réglementation.
Là, si on veut se garder du temps, Antoine, il faut aller à la pause, parce que je veux vraiment qu'on entende notamment la dernière question d'Amir Kadir aujourd'hui, qui n'est pas piqué des verres.
Oui.
Et il faut parler de ce grand sondage léger qui donne une vaste majorité, une grosse majorité à François Legault s'il y avait des élections aujourd'hui, après la pause. De retour avec Antoine et Alec. Antoine, parle-nous donc des lendemains de ce grand sondage. Il devait avoir des faces de carême et d'autres faces plus joyeuses à matin au Parlement.
Oui, oui, c'est vrai, face de carême, ça décrit bien le visage de plusieurs libéraux ce matin et péquistes. Parce que le Parti québécois, si on se fie aux projections qu'on a faites là, avec, à l'aide du grand sondage, puis de Brian Breguet, là, le spécialiste en sondage, ça donne 83 comtés pour la CAQ, 33 pour les libéraux, puis les péquistes se retrouvent à...
5.
5! Écoute, c'est la disparition, là. C'est l'Union nationale en 1976, je pense, à peu près. Là.
Ben 70, ils sont tombés à très peu. 73, ils sont tombés à zéro. Mais, et 76, ils étaient revenus à une dizaine avec Rodrigue Biron.
C'est ça. Ah c'est, oui, ils étaient revenus à une dizaine. C'est vrai, c'est vrai. Pour eux, c'était une remontée. Exactement. Mais tout ça pour dire que ça va très mal pour le Parti québécois, qui a essayé, tant bien que mal, là, de commenter l'affaire ce matin. Jean-François Lisée a dit que François Legault, c'était un peu comme Thomas Mulcair avant les élections de 2015 ou Denis Coderre avant leur cuisante défaite.
Ouais. Ben oui, mais c'est...
Mais il n'a pas repris sa fameuse métaphore du printemps, là. Tu sais, la boule de neige qui fond au printemps.
Ouais, ni celle de l'Ontario, hein? T'as
remarqué? Oui.
Regardez en Ontario, le NPD, Andrew Watt, finalement, il n'a pas repris celle-là.
Non, c'est ça.
Ça montre que chaque course est différente. Les contextes ne sont pas toujours les mêmes.
Puis tout à l'heure, là, juste pendant qu'on était en onde, là, j'ai pu écouter un petit peu d'une oreille distraite François Legault qui, lui, s'attaque là, vraiment à la clique libérale. On sent que c'est ça là, ce qu'il appelle la clique libérale. Il dit, par exemple, là, ça c'est une autre nouvelle importante qui vient de tomber, là, c'est les libéraux vont voter contre le rapport de la commissaire à l'éthique sur Pierre Paradis.
Bien, on savait qu'ils étaient divisés. Et là, ils vont voter contre en bloc parce que moi, hier soir, on me disait on est tellement divisés que ça va peut-être finir en vote libre.
Entre eux, puis c'est le temps qu'on les sorte. Alors, ils martèlent ce message-là et c'est comme ça. Là. Puis, il était assez... en dehors, là, il était très humble par rapport au sondage, évidemment.
Tu parles de Legault, mais on t'a perdu pendant un court instant, Antoine.
C'est vrai?
Oui, oui. Sur Pierre Paradis, tu nous as bien dit que tous les députés libéraux vont voter contre l'obligation de rembourser le 25 000. Là.
Oui, oui, okay, exactement.
Ça ne sera pas un vote libre.
Ça ne sera pas un vote libre, ce qu'avait demandé Pierre Paradis. Tout à l'heure, Jean-Marc Fournier nous a expliqué si nous votions pour ce rapport-là, il y aurait une injustice de commise. Jean-Marc Fournier a demandé à un avis externe sur le rapport de la commissaire à l'éthique. On se souvient de la commissaire à l'éthique, elle reprochait à Pierre Paradis d'avoir mal utilisé ses allocations de logement à Québec, à réclamer un remboursement de 25 000 $ comme tu l'as dit. Fournier, Jean-Marc Fournier, le leader du gouvernement, a bien dit qu'il n'était pas question de désavouer Ariane Mignolet, la commissaire à l'éthique, en tenant ce vote-là, là, en prenant ce vote-là du tout.
Okay,
pas un vote sur l'institution, c'est un vote sur le rapport.
Sur le rapport.
Puis, les oppositions, là, François Legault et Pascal Bérubé, entre autres, là, disent que, au contraire, le gouvernement est en train de vouloir désavouer complètement la commissaire à l'éthique. C'est épouvantable. Hein? Tout à l'heure, Pascal Bérubé a tweeté une grave atteinte à l'institution du commissaire à l'éthique du Québec.
Oui.
Moi, j'y ai répondu sur Twitter, mais c'est comme ça que les institutions ont été conçues. Par qui? Par les parlementaires eux-mêmes. C'est eux qui ont fait le code d'éthique puis qui ont voulu que l'Assemblée nationale soit le tribunal de dernière instance quand on juge un député.
Oui.
Mais ça veut pas dire ça qu'à chaque fois qu'un commissaire condamne un parlementaire, qu'il faudrait que l'Assemblée nationale appuie de façon servile les décisions du commissaire non plus. Donc, je comprends que c'est dur pour Ariane Mignolet d'avoir le parti qui est au pouvoir qui va voter contre un rapport, mais en même temps, c'est la possibilité que les parlementaires eux-mêmes ont mis dans la loi.
Oui. En fait, comprends-tu ce que je veux dire? Très, très bien. Mais la question, puis d'ailleurs, Alec la soulevait quand il est arrivé dans le studio il y a un instant. La question, c'est pas tellement est-ce que l'institution est attaquée ou pas par le vote des libéraux. La question, c'est de savoir pourquoi les libéraux vont-ils prendre ce vote-là? Pourquoi ont-ils décidé, dans le fond, d'appuyer Paradis plutôt que d'appuyer la recommandation de la commissaire?
Toutes les questions se posent, mais cette question-là, évidemment, se pose aussi. Pourquoi? Ben parce que Jean-Marc Fournier, là, il nous a fait une présentation de l'avis juridique, puis il considère que le jugement, appelons-le comme ça, de la commissaire à l'éthique, il est mal foutu. Il y a à peu près 9 points sur lesquels la commissaire dit une chose, puis c'est pas bien appuyé. C'est ça là qui prétend le gouvernement, notamment qu'il y a un manque de proportionnalité de la faute, du blâme par rapport à la faute commise. Il y a une faute commise, puis il y a une sanction trop élevée, trop dure, trop sévère. C'est ça. Alors c'est drôle parce qu'on est passé d'un commissaire à l'éthique qu'on prenait pour un têteux. Qui était trop doux avec les parlementaires. Jacques Saint-Laurent a changé de commissaire à l'éthique. Là, au contraire, là, certains disent est trop sévère. Mais je veux dire, c'était bien argumenté.
C'était l'argument, Alec, que tu soulevais tout à l'heure en disant, depuis le temps qu'on se plaint le commissaire à l'éthique n'est pas assez sévère, là, on a une recommandation qui est exigeante, qui est peut-être sévère. En tout cas, ça dépend des points de vue. Moi, je la trouve correcte. Mais là, on la désavoue.
Oui,
on désavoue la décision, pas l'institution, mais on désavoue la décision.
Ce que ça donne
décision.
Comme impression, puis probablement que dans les détails, effectivement, il y a des raisons de s'y opposer aussi, mais ce que ça donne quand même comme message, c'est la première fois qu'on demande à un député de rembourser des allocations qu'il a reçues de manière limite, disons-le comme ça, là, très limite, là. Il y a peut-être un flou dans le règlement. Mm-hmm. À la première occasion, on dit, ben non, un député n'a pas besoin de rembourser. C'est ça que ça envoie quand même comme message.
Oui, mais tu sais, si les règles sont floues, ce que dit exactement la commissaire, comment tu veux qu'un parlementaire les applique comme il faut? On peut pas lui reprocher d'avoir mal appliqué des règles qui étaient floues. Alors, c'est un peu ça qu'ils disent. Odi alteram partem dans cette situation-là. C'est une situation quasi judiciaire, là. Il faut écouter le monde.
Antoine, faut que je t'arrête.
C'est dommage parce que Paradis, imagine-toi donc, il est en guerre contre l'UPA aussi, qui a déposé une mise en demeure parce que dans un texte, il a dit que c'était l'UPA qui l'avait fait tomber.
Et l'UPA a déposé une mise en demeure.
C'est
incroyable. Pour lui demander de se retracter, c'est ça? Très bien. Parce que je veux parler du Parti conservateur, Alec.
Oui.
Maxime Bernier qui s'est fait retirer. Est-ce qu'on sait comment ça s'est passé au caucus ce matin? Parce qu'il s'est fait retirer son poste de porte-parole. Ils l'ont pas mis à la porte, hein?
On le sait un petit peu parce que j'ai fait quelques appels. Alors, ça s'est plutôt bien passé. On a dit qu'il avait accepté la décision du chef. Il était présent au caucus ce matin. Et lorsque Andrew Scheer a terminé son discours, il s'est levé et il a applaudi comme tous les autres députés. Donc, on pense que la crise est résorbée. Lui, il a donc perdu son rôle de critique en matière de développement économique, mais il est toujours membre du caucus et il ne semble pas y avoir d'appétit au caucus pour l'expulser. C'est comme ça qu'on
m'explique
ça. Ils ont
peur d'en faire une victime. C'est ça que
je comprends. Oui, puis je pense soyons honnêtes, c'est un électron libre, Maxime Bernier. Il dérange, mais ils ont quand même besoin de lui. D'abord, il représente un courant important au sein du Parti conservateur. Il a obtenu les votes de la moitié des membres par rapport à Andrew Scheer. Mm-hmm. Au Québec, veut pas, c'est une figure connue. Le mettre à la porte, là, c'est une grosse décision. Ça prendrait donc une volonté de beaucoup de députés. Puis semble-t-il qu'on était content qu'Andrew Scheer sévisse parce que c'était pas la première fois que Maxime Bernier prenait un engagement auprès de ses collègues et qu'il ne le respectait pas. Dans ce cas-ci, il avait promis de ne pas diffuser le chapitre de son futur livre sur la gestion de l'offre, où il critique la gestion de l'offre, qui n'est pas la position du parti. Il avait dit, il a été mis sur Internet, mais je n'y toucherai plus, j'en parlerai plus. Puis là, dans les derniers jours, il l'a remis en ligne sur son site Internet. Donc, les députés et le chef ont dit, c'est un bris d'engagement, c'est un bris de parole, tu ne travailles pas en équipe. Donc, ils l'ont puni, puis ça semble que ça a satisfait les députés conservateurs. Ils n'ont pas demandé que ça aille plus loin. Donc, il est toujours membre du caucus.
Et pendant ce temps, les conservateurs, selon un sondage publié dans le journal Le Quotidien au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les conservateurs, Richard Martel, le candidat, mène avec 48% des voix. La libérale Lina Boivin est à 26,7. Donc, c'est une bonne avance de quoi? 22 points.
Oui.
Et le Bloc est à 11 et le NPD est à 8.
Élection lundi, donc voilà. Et tous les chefs vont être là demain dans Chicoutimi. C'est le départ du grand défi Pierre Lavoie. Donc Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jack Metzing vont être dans Chicoutimi demain.
Et je veux entendre la dernière question d'Amir Kadir. Je voulais l'entendre, la dernière question d'Amir Kadir. Antoine, c'est moi qui vais la lancer.
Pas de problème.
On écoute ça.
Il y a 10 ans, avec un poème de Godin en guise d'assermentation, t'en souviens-tu, Godin, à cette heure que t'es débuté? T'en souviens-tu des mille métiers, des misères, l'amiantosé, le silicosé, le cotonisé, le bicinosé, celui qui tousse sa journée, celui qui crache sa vie, celui qui s'arrache les poumons. Je m'adresse au ministre parce que, en fait, j'ai l'impression que ce poème s'adresse à nous, les médecins qui sommes devenus les députés. Les décès liés à l'amiante augmentent au Québec.
Non. Aujourd'hui, je pense que nous avons une protection qui est certainement à la bonne hauteur.
Première complémentaire, monsieur le député de Mercier, et en passant, je vous souhaite un bon anniversaire.
Vous êtes bien aimable, monsieur le président.
Voilà.
Oui, puis il est allé plus loin dans. Alors, de la dernière complémentaire, il a dit « C'est votre dernière question. Je tiens à vous remercier pour l'apport original et manifestement important que vous avez eu au cours des 10 dernières années dans cette Assemblée. » Donc, le président Chagnon qui a vraiment rendu hommage à un parlementaire avec qui il s'est souvent esquinté ou escrimé.
Très bien. Merci beaucoup, Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire.
Ça me fait plaisir. Je m'excuse. Il y avait bien du stock aujourd'hui.
Ben non,
fin de session.
Mais je sais. Excuse-toi pas. Qu'est-ce que tu veux? On essaye d'en donner le plus possible à notre vaste public. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça nous oblige à faire des choix parfois difficiles. Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité.
À demain.
Merci à vous deux. À demain. Dans un instant, Loïc Tassé avec les affaires internationales.